Koshka, l'orvée de Ruy. Je viens d'avoir 6 ans. J'habite dans le Bout. Je suis en première primaire et je prépare ma petite communion. Je vais au catéchisme de la paroisse Saint-Joseph de Ruy, paroisse enclavée entre Grasse-Berleur, Gemeppe-sur-Meuse et Ologne-aux-Pierres. L'église est située au pied du terril des Maquets. Lorsque j'arrive sur le terre-plein devant l'église, une énorme pelle mécanique jaune agrandit le parking. Évidemment, je m'arrête. Avez-vous déjà vu un gamin ne pas s'arrêter pour regarder travailler un tel engin ? Gourmande et affamée, cette pelle attaque par bouchées voraces le coteau de terre chocolat et vide son énorme godet dans un camion. Celui-ci, sitôt sa benne remplie, part se délester au diable Vauvert. Tout à coup, un énorme ver, gris, brillant, dévale le long du coteau. Il aboutit à mes pieds en se tortillant dans tous les sens. Non, ce n'est pas un ver de terre, mais bien un serpent. Non, c'est un orvet d'une 20aine de centimètres, superbe objet fragile, écailleux, avec des reflets mordorés et un petit œil froid qui me scrute. Je me précipite pour m'en emparer et il chie dans ma main. L'horreur ! Aussitôt, je le relâche, mais surmontant mon dégoût, je le reprends de plus belle, la tentation étant vraiment trop forte. Cette fois, c'est le bout de sa queue qu'il laisse entre mes doigts avant de s'enfuir dans l'éboulis sans demander son reste. La pelle mécanique se remet au travail. Un nouveau camion vient d'arriver. J'ai abandonné la mort dans l'âme cette merveilleuse apparition. À la sacristie, l'abbé, lui, n'apprécie ni l'apparition ni mon retard. Je serai donc puni et je passerai mon heure de catéchisme à genoux contre le mur des martyrs pour la science. Le lendemain, je raconte l'anecdote à mon instituteur qui en profite pour expliquer à toute la classe, mixte dans le Bout, ce qu'est un orvet et pourquoi il peut sans mal apparent perdre sa queue. C'est ainsi que j'apprends qu'il est un lézard ayant perdu ses pattes au cours de son évolution, faute d'en avoir l'usage. Il en perd des choses, cet orvet. Autre conclusion de cette journée mémorable, celle-ci étant peut-être la plus importante. Je suis devenu le héros de Anne, la fille du banc voisin. Pendant un jour entier, je serai son chevalier, celui qui a osé combattre le dragon. Ma deuxième rencontre avec cette anguille de cristal se fera en Ardennes, là où les orvets sont communs. À ce moment, j'aurai 16 ans, un âge où les filles ne croient plus au dragon. La grande sauterelle verte. Ce dimanche-là, nous étions, avec mes parents, partis faire une promenade jusqu'au viaduc qui bordait le monde, mon monde. Comme à l'habitude, je courais tour à tour 5 mètres devant, 5 mètres derrière. Ce devait être une chaude journée d'été, car les blés et les coquelicots nous faisaient la fête. Papa et maman étaient en grande conversation. Mon attention fut subitement attirée par un mouvement insolite dans le talus où poussait en vrac un agréable mélange de bleuets, de verveine et d'herbes folles. Je m'approchai du talus avec toute la prudence d'un apache sur le sentier de la guerre et le silence d'un sioux à la chasse. Rien. Puis, heureusement, la chose bougea. Une énorme sauterelle, mais énorme, et d'un vert. Elle se confondait parfaitement avec l'herbe de laquelle elle observait mon monde. 2 longues antennes de même couleur tâtaient tous les obstacles et ils étaient nombreux. Son abdomen était terminé par un énorme sabre de parade, quel aspect redoutable! Je m'emparai de cette beauté émeraude et ma hâte fut récompensée par une morsure à l'auriculaire. D'un geste réflexe, je relâchai l'animal. Une goutte de liquide brun perlait à l'endroit de la morsure et elle était cuisante. L'attrait devait être vraiment très fort car je fis une seconde tentative. Mettant bien mes 2 mains en coupe, l'une au-dessus de l'autre, elle bien à l'intérieur, sans serrer, je sentais ses pattes forcer mes doigts, je serrai bien fort et courus montrer ma découverte smaragdine à papa. « Papa, regarde comme c'est beau! Tu as vu comme elle est énorme ?» Entièrement pris par sa conversation avec maman, il me répondit d'un ton distrait, presque sans regarder l'animal, pourtant fabuleux, que je lui montrais comme un trésor qu'avec lui seul je voulais partager. Oui, c'est une sauterelle verte. Comme si je ne le savais pas. Ma déception fut énorme, un si long combat avec un animal que je ne connaissais que de façon livresque, animal que je voyais pour la première fois, animal qui me faisait passer du monde de la fiction à la réalité. Ce jour-là, du haut de mes 6 ans, mon père était devenu subitement plus petit. La grande sauterelle verte restera, elle, le jalon d'une époque à une autre. Les crapauds de la bonne fortune. En cette chaude après-midi de juin, la sirène du charbonnage hurlait la fin de la journée de travail. Elle signalait l'arrêt du déversement des déchets sur le terril. Le tintamarre continuel des berlines cessait d'un coup, le calme s'installait, impressionnant. Petit à petit, l'oreille devait réapprendre les sons naturels. Les premiers à reparaître étaient les stridulations du criquet dans les hautes herbes sèches du Sarre, et le cri lancinant de la buse tournant sans fin dans le bleu du ciel. Il est 4 heures. Les femmes des baraquements, toutes habillées de noir, qui, poussant un landau dépenaillé, qui, une caisse montée sur roue de vélo, partaient vers le terril. Elles allaient, telles des glaneuses, trier les déchets de boisage et les morceaux de charbon de seconde qualité remontés durant la journée. C'était également l'heure où, sortant de l'école, nous passions en vitesse par nos maisons pour emporter nos goûters et nous partions à quelques heures en exploration. Les nombreuses mares, habitées par le crapaud des joncs ou plus justement surnommé crapaud calamite, étaient notre terrain de jeu de prédilection. Il nous arrivait même de nous y baigner lors des grosses chaleurs estivales. C'était de grands plans au goût amer, d'une eau grise peu profonde et stagnante dans les creux argileux. J'avais ramené à la maison une dizaine de ces bestiaux, aux cris particulièrement lugubres et sonores la nuit. Je leur avais offert comme abri un tonneau rouillé, à moitié rempli de briques et d'eau. Mon père, dont la fenêtre donnait sur le jardin où se trouvait ce vivarium d'un nouveau genre, n'en avait pas dormi, et dès le lendemain, je dus reconduire manu militari dans leur mare natale, mes hôtes d'une nuit. C'étaient de beaux batraciens vert foncé, avec une ligne mordorée sur le dos. Je me souviens des multiples recherches que j'avais dû effectuer à la bibliothèque communale pour trouver le nom de cet animal. Effectuer ces recherches à son sujet était pour moi presque aussi amusant que de le chasser. Le scénario était sans cesse le même, personne ne connaissait l'espèce recherchée, et quand par hasard quelqu'un citait un nom, il était faux, alors qu'en juin, des dizaines de milliers de petits crapauds pullulaient en bordure des champs et couraient entre les blés après chaque ondée. Ils mesuraient tout au plus 1 centimètre. On aurait pu croire qu'ils étaient tombés avec la pluie. Ils étaient l'exacte reproduction en miniature de leurs parents et avaient déjà leur minuscule ligne jaune le long du dos. Outre le calamite et le commun buffo-buffo, le gros brun qu'on trouvait dans les jardins, on pouvait, rarement, observer la lite ou crapaud accoucheur. Les têtards de celui-ci, nommés popiule dans mon quartier ou maclotte à Ruy, étaient énormes. Ils se dégotaient le plus souvent dans l'eau légèrement courante des fossés alimentés par le trop-plein des bacs à chlames. Ces têtards étaient de vrais monstres de 4 ou 5 cm qui, paradoxalement, donnaient un individu adulte de très petite taille. Celui-ci avait un chant mélodieux et langoureux qui s'entendait de loin une fois la nuit tombée, surtout durant les chaudes soirées du début de l'été. Il tenait son nom du fait que le mâle portait, attaché sur ses pattes arrière, un chapelet de gros œufs jaunes qu'il trimbalait pendant plusieurs semaines malgré l'encombrement et la gêne. Dès que les têtards étaient arrivés à maturité, le père plongeait ses pattes arrière dans l'eau pour l'éclosion. C'était un petit animal craintif, gris, à la peau sèche, qui avait trouvé dans le remblai de la ligne de chemin de fer son gîte et son bonheur. Il nous arrivait aussi, avec mon ami Jean-Pierre, d'abandonner l'exploration pour la prospection. Nous partions à la chasse aux pierres. Au pied du crassier, parmi les déchets de la mine, il nous arrivait de trouver de la chatoyante pyrite de cuivre ou d'étranges fossiles du carbonifère. Ceux-ci représentaient le plus souvent des fougères et des écorces mystérieuses. On les trouvait en effeuillant des schistes charbonneux. Ces plantes étaient enfermées depuis des millions d'années et grande était l'émotion qui nous saisissait lors d'une trouvaille. Car ce ressenti était pour moi bien plus puissant que lors de l'ouverture d'une des surprises de chez la Bionde. J'avais l'impression à ce moment-là d'accéder à un monde où tout était à découvrir. De temps à autre, nous trouvions un bloc vitrifié. Il avait l'apparence de l'obsidienne, mais était de couleur verdâtre, comme du jade précieux ou de la malachite claire. Ce n'était hélas que de banals déchets de fonderie. Plus rarement, nous tombions sur de la galène de plomb ou de zinc, personne ne les différenciait. Ce terril a vraiment été mon principal terrain de jeu, au jour sans cesse renouvelé et pourtant différent. Il a également été le témoin privilégié de l'amitié qui nous unissait, Jean-Pierre et moi.